Chapitre 54. Abuja avait des horizons lointains, de larges rues, un aspect ordonné. En venant de Lagos, on était frappé par une sensation d'espace et d'harmonie. L'atmosphère respirait la puissance. Ici, chacun évaluait l'autre, se demandant à quel point il était quelqu'un. La ville sentait l'argent, l'argent facile, l'argent qui changeait aisément de main. Et le sexe était partout. L'ami d'Obinze, Chidi, disait qu'il ne courait pas les filles à Abuja parce qu'il ne voulait pas empiéter sur le territoire d'un ministre ou d'un sénateur. Ici, toute jeune femme séduisante était mystérieusement suspecte. Abuja était plus conservatrice que Lagos, disait Chidi, parce que plus musulmane, et dans les réceptions, les femmes ne portaient pas de vêtements provoquants. Pourtant, on pouvait y acheter et y vendre du sexe beaucoup plus facilement. C'était à Abuja qu'Obinze avait failli tromper Kossi, pas avec une de ses filles spectaculaires qui portait des lentilles de contact colorées et de longs cheveux ondulés et lui faisait des avances, mais avec une femme d'âge moyen, vêtue d'un caftan, assise à côté de lui dans le bar de l'hôtel, et qui avait dit « Je sais que vous vous ennuyez ». Elle paraissait prête aux imprudences. Peut-être une épouse refoulée, frustrée, qui s'était libérée cette nuit-là. Pendant un moment, un désir intense, une pure pulsion sexuelle le submergea. Mais il songea qu'il serait encore plus las après, impatient de l'avoir quitté sa chambre d'hôtel, et tout cela lui parut demander un trop grand effort. Elle finirait avec l'un des nombreux hommes d'Abuja qui menaient une vie oisive dans des hôtels et des maisons qu'ils occupaient temporairement, rampant devant des personnes bien introduites, cherchant à obtenir un contrat ou à être payé pour un contrat. Au cours du dernier voyage d'Obinze à Abuja, un de ces personnages qu'il connaissait à peine avait observé pendant un moment le manège de deux jeunes femmes à l'autre bout du bar et lui avait demandé, avec désinvolture, « Auriez-vous un préservatif à me prêter ?» Mais il n'avait pas répondu. À présent, assis à une table couverte d'une nappe blanche dans l'hôtel Protea à Socorro, attendant Edusco, l'homme d'affaires qui voulait acquérir son terrain, il imagina Ifemelu à côté de lui et se demanda ce qu'elle penserait d'Abuja. Peut-être serait-elle rebutée par son aspect dénué d'âme ? Peut-être pas. Elle était imprévisible. Un jour, dans un restaurant de Victoria Island, où les serveurs habillés de noir virevoltaient autour de la table, elle avait paru distante, le regard fixé sur le mur derrière lui, et il s'était inquiété. « À quoi penses-tu » avait-il demandé. « Je suis en train de penser qu'à Lagos, tous les tableaux semblent être toujours de travers, jamais droit, » avait-elle répondu. Il avait ri et pensé qu'il était avec elle comme il n'avait jamais été avec une autre femme. Gai, vif, plein d'entrain. Quand ils avaient quitté le restaurant un peu plus tard, ils l'avaient regardée, faire un pas de côté pour éviter les flaques d'eau près de la porte d'entrée, et avait eu envie d'aplanir pour elle toutes les routes de Lagos. Son esprit ne le laissait pas en paix. Il se disait qu'il avait eu raison de ne pas être venu à Abuja avec elle, parce qu'il avait besoin de réfléchir, et la minute suivante, il était bourrelé de remords. Elle s'était peut-être sentie rejetée. Il l'avait appelée à plusieurs reprises, avait envoyé des textos demandant s'ils pouvaient se parler, mais elle l'avait ignoré, ce qui était peut-être préférable, parce qu'il ne savait pas ce qu'il aurait dit s'il s'était parlé. Edusco était arrivé. Une voix forte retentit dans le hall de l'hôtel, tandis qu'il parlait au téléphone. Obinze le connaissait peu. Ils avaient fait des affaires ensemble une fois auparavant, présenté par un ami commun, mais Obinze admirait les hommes de ce genre, des hommes qui ne connaissaient aucun puissant bien placé, qui n'avaient pas de relations, et avaient fait fortune d'une manière qui ne défiait pas la simple logique du capitalisme. Edusco n'avait fréquenté que l'école primaire avant de suivre une formation de vendeur. Il avait débuté avec un étal à Onitsha et était maintenant propriétaire de la deuxième plus grande compagnie de transport du pays. Il pénétra dans le restaurant, la démarche assurée et son gros ventre en avant, parlant fort un anglais épouvantable. Il ne lui venait pas à l'idée de douter de lui-même. Tandis qu'il discutait du prix du terrain, Et Dusko dit, « Écoute, mon frère, tu ne le vendras jamais à ce prix-là. Il fait si kakita. La récession frappe tout le monde. Frère, mets un peu plus au pot. C'est un terrain situé à Maitama dont nous parlons, pas dans ton village, » dit Obinze. « Tu as le ventre plein. Que veux-tu de plus ? Tu vois, c'est le problème avec vous autres Igbo. Vous ne faites pas frère-frère. C'est pour cela que j'aime les Yoruba. Ils s'entraident. Sais-tu que l'autre jour, je suis allé au service des impôts près de chez moi et il y avait un Igbo. J'ai vu son nom et je lui ai parlé en Igbo. Il ne m'a même pas répondu. Un Haoussa parlera Haoussa à un compagnon Haoussa. Un Yoruba qui rencontre un autre Yoruba lui parlera Yoruba. Mais un Igbo parlera anglais à un Igbo. Je suis même surpris que tu me parles Igbo. »
C'est vrai, dit Obinze. C'est triste, c'est l'héritage d'un peuple vaincu. Nous avons perdu la guerre du Biafra et appris à avoir honte.
C'est simplement de l'égoïsme, dit Edusko, indifférent à l'interprétation intellectuelle d'Obinze. Le Yoruba aide son frère. Mais vous, les Igbo, Iga Asikwa. Regarde comment tu me proposes ce prix.
Ok, Edusko. Pourquoi ne te donnerais-je pas ce terrain gratis? Je vais aller chercher le titre de propriété et te le céder maintenant.
Edusko rit. Il trouvait son interlocuteur sympathique. C'était visible.
Obinze l'imagina en train de parler de lui dans une réunion d'autres self-made men, Igbo, des hommes audacieux et entreprenants, qui brassaient d'énormes affaires et avaient la charge de vastes familles étendues. Il imaginait Edusko disant « Obinze m'a ife. Obinze n'est pas comme certains de ces garçons inutiles qui ont de l'argent. Lui n'est pas stupide. » Il regarda sa bouteille de Gulder, presque vide. C'était étrange que tout perde ainsi son éclat en l'absence d'Ifemelu. Même le goût de sa bière préférée était différent. Il aurait dû l'amener avec lui à Abuja. C'était stupide de prétendre qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, alors qu'il se cachait simplement une vérité qu'il connaissait déjà. Elle l'avait traité de dégonflé. Elle avait raison. Il y avait de la lâcheté dans sa peur du désordre, de bouleverser ce qu'il ne désirait même pas. Sa vie avec Kossi, cette seconde peau qui ne lui avait jamais convenu.
« D'accord, Edusko, » dit Obinze, soudain épuisé. « Je ne vais pas manger ce terrain si je ne le vends pas. »
Edusko eut l'air stupéfait.
« Tu veux dire que tu acceptes mon prix ?»«
Oui, » dit Obinze. Après le départ d'Edusko, Obinze appela et rappela Ifemelu mais n'obtint pas de réponse. Sa sonnerie était peut-être coupée et elle était en train de déjeuner dans sa salle à manger, portant ce t-shirt rose qu'elle mettait si souvent avec un petit trou au cou et Heartbreaker Café inscrit sur le devant. Ses tétons, quand ils durcissaient, ponctuaient les mots comme des apostrophes. Cette pensée l'excita. Ou peut-être était-elle en train de lire au lit, son peignoir en abada étendu sur elle comme une couverture, vêtue de sa seule culotte noire. Elle n'avait que de simples culottes noires en guise de sous-vêtements. Elle se moquait des froufrous féminins. Un jour, il avait ramassé une de ses culottes qu'il venait de jeter sur le sol après l'avoir fait glisser le long de ses jambes et avait regardé la trace laiteuse de l'entrejambe. Elle avait ri et dit « Tu as envie de sentir, hein ?»« Je n'ai jamais compris qu'on puisse aimer renifler ça. » Ou peut-être était-elle devant son ordinateur, occupée par son blog, ou sortie avec Rani Nudo, ou au téléphone avec Dicky, ou avec un autre homme dans son salon, lui parlant de Graham Greene. Une nausée monta en lui à la pensée qu'elle pouvait être avec quelqu'un d'autre. Non, elle n'était pas avec quelqu'un d'autre, pas si vite. Cependant, il y avait chez elle cette obstination imprévisible. Elle pouvait agir ainsi pour le blesser. Quand elle lui avait dit, le premier jour, « J'ai toujours vu le ciel avec les autres hommes », il s'était demandé combien il y en avait eu. Il aurait voulu le lui demander, mais s'en était abstenu, craignant qu'elle lui dise la vérité et qu'il en souffre durablement. Elle savait bien sûr qu'il l'aimait, mais savait-elle à quel point sa passion pour elle le consumait, le dévorait chaque jour, et que son pouvoir sur lui s'exerçait même pendant son sommeil? Kimberly adore son mari et son mari n'aime que lui-même. Elle devrait le quitter, mais elle ne le fera jamais. Avait-elle dit en parlant de la femme pour qui elle avait travaillé en Amérique, la femme avec Obi Ocha. Ifemelu s'était exprimé sur un ton léger, sans équivoque, bien qu'il perçût dans ses paroles d'autres significations. Quand elle lui avait raconté sa vie en Amérique, il avait écouté avec une intensité proche du désespoir. Il aurait voulu avoir tout partagé avec elle, avoir connu les émotions qu'elle avait ressenties. Une fois, elle lui avait dit « Le problème avec les relations interculturelles, c'est qu'on passe un temps fou à se justifier. Mon ex et moi passions des heures entières à nous expliquer. Je me demandais même parfois si nous aurions eu quelque chose à nous dire, si nous avions été originaires du même endroit. » Ces mots le comblaient, car ils donnaient à sa relation avec elle une réelle profondeur, l'opposé d'une fantaisie insignifiante. Ils venaient du même endroit, et ils avaient encore des milliers de choses à se dire. Il parlait un jour de la politique américaine quand elle dit « J'aime l'Amérique. C'est vraiment le seul pays au monde où je pourrais vivre en dehors d'ici. » Mais un jour, des copains de Blaine et moi parlions de la question des enfants, et je me suis rendu compte que si j'avais des enfants, je ne voudrais pas qu'ils soient élevés à l'américaine. Je ne veux pas qu'ils disent « Salut » aux adultes. Je veux qu'ils disent « Bonjour » et « Bonsoir ». Je ne veux pas qu'ils marmonnent « Bien » quand quelqu'un leur demande comment ils vont, ou qu'ils lèvent 5 doigts quand on leur demande leur âge. Je veux qu'ils répondent « Je vais bien, merci, et j'ai 5 ans ». Je ne veux pas d'un enfant gavé de compliments qui s'attend à recevoir une médaille en récompense de ses efforts et répond aux adultes au nom de la liberté d'expression. Est-ce une attitude horriblement conservatrice? C'est ce que disaient les copains de Blaine, et pour eux, conservateur est la pire insulte qui soit. Il avait ri, regrettant de ne pas avoir été là avec les copains de Blaine, désirant que cet enfant imaginaire soit le sien, l'enfant bien élevé aux manières traditionnelles. Il lui dit « Cet enfant aura un jour 18 ans et se teindra les cheveux en violet. » Et elle dit « Oui, mais avant cela, je l'aurais viré de la maison. » À l'aéroport d'Abuja, le jour de son retour à Lagos, il songea à se rendre dans le bâtiment international et à acheter un billet pour une destination improbable, comme Malabo. Puis il éprouva un bref sentiment de dégoût de lui-même parce qu'il n'en ferait rien. Il ferait ce qu'il était censé faire. Il embarquait quand Kossi téléphona. « Ton vol est à l'heure? Souviens-toi que nous sortons avec Nigel pour son anniversaire. » « Bien sûr que je m'en souviens. » Il y eut un silence. Il avait répondu sèchement. « Excuse-moi, » dit-il. « J'ai un fichu mal de tête. »«
Chérie, Ndo, je sais que tu es fatiguée, » dit-elle. « À tout à l'heure. »
Il raccrocha et pensa au jour où Bucci, leur bébé tout humide, les cheveux frisés, était né au Woodlands Hospital de Houston et que Kossi s'était tourné vers lui pendant qu'il se débattait encore avec ses gants de latex et avait dit, avec un ton d'excuse, « Chérie, nous aurons un garçon la prochaine fois. » Il avait tressailli. Il s'était rendu compte qu'elle ne le connaissait pas. Elle ne le connaissait pas du tout. Elle ne savait pas que le sexe de leur enfant lui était indifférent. Et il avait éprouvé un léger mépris pour elle, qui avait voulu un garçon parce qu'ils étaient censés vouloir un garçon, et qui avait dit, après avoir mis au monde une fille, « La prochaine fois, nous aurons un garçon. » Peut-être aurait-il dû parler davantage avec elle, de l'enfant qu'ils attendaient et du reste. Car s'ils échangeaient des propos plaisants, étaient bons amis et partageaient d'agréables silences, ils ne parlaient pas vraiment. Mais ils n'avaient jamais essayé parce qu'ils savaient que les réponses qu'il attendait de la vie étaient entièrement différentes des siennes. Ils le savaient depuis le début. Ils l'avaient ressenti dès leur première conversation quand un ami les avait présentés lors d'un mariage. Elle portait une robe de demoiselle d'honneur fuchsia, dont le large décolleté dégageait la naissance de ses seins, qu'il ne pouvait quitter des yeux. Quelqu'un avait fait un discours, appelant la mariée une femme de vertu, et Kossi avait vivement approuvé de la tête et murmuré « C'est une vraie femme de vertu ». Il avait été surpris qu'elle puisse employer le mot « vertu » sans la moindre trace d'ironie, comme on le faisait dans les articles mal écrits des suppléments féminins des journaux du week-end. « L'épouse du ministre est une femme de vertu ». Cependant, il l'avait désirée, lui avait fait la cour avec une détermination sans faille. Il n'avait jamais vu une femme avec des pommettes si bien dessinées qu'elle donnait à son visage une architecture parfaite, une expression si vivante quand elle souriait. Lui-même était depuis peu riche et désorienté, sans un sou et campant dans l'appartement de son cousin. Il s'était retrouvé du jour au lendemain avec des millions de Neiras sur son compte en banque. Cossy était devenue pour lui la pierre de touche de la réalité. S'il pouvait être avec elle, si incroyablement belle et pourtant si ordinaire, prévisible, terre à terre et dévouée, alors peut-être commencerait-il à croire que cette vie était la sienne. Elle s'installa dans la maison qu'il possédait, quittant l'appartement qu'elle partageait avec une amie, et disposa ses flacons de parfum sur la commode de leur chambre, des senteurs d'agrumes qu'il finit par associer à la maison. Elle s'assit à côté de lui dans la BMW, comme si la voiture avait toujours appartenu à Obinze, suggéra d'un air détaché des voyages à l'étranger, comme s'il avait toujours eu la possibilité de voyager. Et quand ils prenaient une douche ensemble, elle le frottait avec une éponge rugueuse, même entre les doigts de pied, jusqu'à ce qu'il se sente renaître, jusqu'à ce qu'il entre complètement dans sa nouvelle vie. Ils n'avaient pas d'intérêt en commun. C'était quelqu'un de prosaïque, qui lisait peu, et était satisfaite plutôt que curieuse du monde qui l'entourait. Mais il lui était reconnaissant. Il se sentait chanceux d'être avec elle. Un jour, elle lui dit que sa famille demandait quelles étaient ses intentions. « Il pose sans cesse la question », dit-elle, insistant sur le « il », pour s'exclure de cette revendication. Il perça à jour son stratagème, mais il l'épousa. Ils vivaient ensemble de toute façon et ils n'étaient pas malheureux. Il pensait qu'avec le temps, elle acquerrait un peu plus de caractère. Cela n'avait pas été le cas après 4 ans, sauf physiquement, d'une manière qui la rendait encore plus belle, plus fraîche, avec des hanches et une poitrine plus pleine, comme une plante d'intérieur bien arrosée. Obinze s'étonna que Nigel ait décidé de s'installer au Nigeria, plutôt que d'y venir en visite chaque fois qu'Obinze avait besoin de présenter son directeur général blanc. Nigel était bien payé. Il aurait pu mener dans l'Essex une vie qu'il n'avait jamais imaginée auparavant, mais il voulait vivre à Lagos, au moins pendant un certain temps. Et avec un malin plaisir, Obinze attendit que Nigel se lasse de la soupe au poivre, des nightclubs, et d'aller boire dans les cabanes de Kuramo Beach. Mais Nigel ne bougeait pas, installé dans son appartement d'Ikoyi, avec une employée de maison à demeure et son chien. Il ne disait plus « L'atmosphère de Lagos est tellement agréable ». Il se plaignait davantage de la circulation et avait enfin cessé de se lamenter à cause de sa dernière petite amie, une jolie fille de Benoué aux manières sournoises qu'il avait plaquée pour un riche homme d'affaires libanais. « Ce mec n'a pas un poil sur le caillou », avait dit Nigel à Obinze. « Le problème avec toi, mon ami, est que tu tombes amoureux trop facilement et trop souvent. N'importe qui aurait vu que cette fille jouait la comédie, qu'elle cherchait le prochain gros poisson. »« Ne dis pas gros poisson comme ça, mon vieux », avait protesté Nigel. À présent, il avait fait la connaissance d'Ulrike, une jeune femme mince au visage anguleux et au corps d'adolescente qui travaillait dans une ambassade et semblait déterminée à mener sa carrière nigériane sans cesser de faire la fête. À table, elle essuyait ses couverts avec sa serviette avant de commencer à manger. « Vous ne le faites pas dans votre pays, n'est-ce pas ?» lui demanda froidement Obinze. Nigel lui lança un regard stupéfait.
« Si ?»
répondit Ulrike en le regardant droit dans les yeux. Cossy lui tapota la cuisse sous la table, comme pour le calmer, ce qui l'irrita. Nigel, lui aussi, l'agaçait, à parler des maisons de ville qu'Obinze projetait de faire construire, du plan remarquable du nouvel architecte. Une tentative timide d'interrompre la conversation d'Obinze avec Ulrike. « Un architecte d'intérieur fantastique, qui me fait penser à certains de ces fabuleux lofts de New York. » « Nigel, je n'ai pas l'intention de prendre ce plan. » Une cuisine ouverte ne marchera jamais avec les Nigérians, et nous avons pour cible les Nigérians parce que nous voulons vendre, pas louer. Les cuisines ouvertes sont faites pour les expatriés, et les expatriés n'achètent pas d'immobilier ici.
Il avait déjà expliqué à Nigel que la cuisine nigériane n'avait rien de futile avec tout ce qu'il fallait piler. Elle demandait des efforts, beaucoup d'épices, et les Nigérians préféraient montrer le résultat final plutôt que la préparation.
Arrête de parler boutique, dit Cossy avec bonne humeur. Ulrike, avez-vous essayé la cuisine nigériane ?
Obinze se leva brusquement et alla dans la salle de bain.
Il appela Ifemelu et enragea de voir qu'elle restait une fois de plus sans répondre. Il était furieux contre elle, lui en voulait de faire de lui quelqu'un qui n'avait plus totalement le contrôle de ses sentiments. Nigel entra dans la salle de bain. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux ?» Il avait les joues écarlates comme toujours lorsqu'il buvait. Obinze se tenait près du lavabo, son téléphone à la main, sentant monter à nouveau en lui une extrême lassitude. Il aurait voulu en parler à Nigel. C'était peut-être le seul ami en qui il avait une totale confiance, mais Nigel aimait bien Cossie. « C'est une vraie femme, mon vieux !» lui avait-il dit un jour. Et Obinze avait vu dans son regard le regret nostalgique et désespéré d'une chose qu'il lui serait à jamais impossible d'atteindre. Nigel l'écouterait, mais Nigel ne comprendrait pas. « Désolé, je n'aurais pas dû être grossier avec Ulrike, » dit Obinze. « Je suis simplement fatigué. Je pense que je vais avoir une crise de malaria. » Cette nuit-là, Cossie se faufila tout près de lui, s'offrant à lui. Ce n'était pas le désir qu'elle exprimait en lui caressant la poitrine, prenant son sexe dans la main, mais une offrande votive. Quelques mois plus tôt, elle avait dit qu'elle voulait « essayer d'avoir notre fils ». Elle n'avait pas dit « notre deuxième enfant », elle avait dit « notre fils ». C'était le genre de choses qu'elle apprenait dans son église. « Le pouvoir réside dans la parole. Revendiquez votre miracle. » Il se souvenait que la première fois, après des mois d'essais infructueux, elle avait commencé à dire, l'air vertueux et chagrin, « Toutes mes amies qui ont mené une vie dévergondée sont enceintes. » Après la naissance de Bucci, il avait accepté d'assister à un service d'action de grâce à l'église de Cossie, rempli d'une assistance élégamment habillée. Des amis de Cossie, du même style que Cossie. Et il avait eu l'impression d'être devant une marée d'imbéciles. Des imbéciles niais, frappant dans leurs mains, se balançant d'un pied sur l'autre, dociles et soumis devant le pasteur, dans son costume de bon faiseur. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» demanda Cossie quand il resta flasque dans sa main. « Tu ne te sens pas bien ?»« Seulement fatiguée. » Elle avait les cheveux couverts d'un filet noir, le visage enduit d'une crème qui sentait la menthe qu'il avait toujours aimée. Il se détourna. Il se détournait depuis le jour où il avait embrassé Ifemelu pour la première fois. Il n'aurait pas dû comparer, mais c'était plus fort que lui. Ifemelu était exigeante. « Non, ne jouis pas tout de suite, je te tuerai si tu jouis !» disait-elle ou « Non, chérie, ne bouge pas !» Et elle enfonçait ses mains dans sa toison et remuait à son propre rythme. Et quand enfin elle se cambrait en poussant un cri perçant, il éprouvait un intense contentement de l'avoir satisfaite. Elle s'attendait à être satisfaite. Mais pas Cossie. Cossie acceptait toujours ses caresses avec complaisance, et il se figurait parfois que son pasteur lui disait qu'une femme devait faire l'amour avec son mari, même si elle n'en avait pas envie, sinon le mari irait se consoler chez les prostituées.
« J'espère que tu ne vas pas être malade ?» dit-elle.
« Ça va. » En temps normal, il l'aurait attirée contre lui et lui aurait doucement caressé le dos, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais il ne put s'y résoudre. Au cours des semaines passées, il avait souvent songé à lui parler d'Ifemelu, puis s'était arrêté. Que pourrait-il dire? Cela ressemblerait au scénario d'un film stupide. « Je suis amoureux d'une autre femme. Il y a quelqu'un d'autre. Je te quitte. » Des mots qu'il était impensable de prononcer sérieusement en dehors d'un film ou d'un roman. Cossie l'entourait de ses bras. Il se dégagea, marmonna qu'il avait mal à l'estomac et alla aux toilettes. Elle avait mis un nouveau pot pourri, un mélange de feuilles sèches et de graines dans une coupe violette, sur le couvercle du réservoir de la chasse d'eau. L'odeur trop puissante de lavande l'oppressa. Il versa le contenu de la coupe dans les toilettes et fut aussitôt pris de remords. Elle avait pensé bien faire. Comment aurait-elle su qu'un fort parfum de lavande lui serait pénible? La première fois qu'il avait vu Ifemelu au Jazz Hall, il était rentré à la maison et avait dit à Cossie « Ifemelu est en ville. J'ai pris un verre avec elle. » Et Cossie avait dit « Ah, ton ami de l'université !» avec une indifférence telle qu'il n'avait pas été convaincu. Pourquoi le lui avait-il dit? Peut-être parce qu'il avait compris, même alors, la force de ce qu'il ressentait et qu'il voulait la préparer, lui annoncer par étapes. Mais comment ne voyait-elle pas qu'il avait changé? Comment ne le voyait-elle pas sur son visage? Avec tout le temps qu'il passait seul dans son bureau, et avec ses sorties fréquentes, ses retours tardifs, il avait espéré, égoïstement, qu'il pourrait s'attirer son hostilité, la provoquer. Mais elle acquiesçait, hochait la tête avec complaisance quand il lui disait qu'il avait passé la soirée à son club, ou chez Okudiba. Il lui raconta qu'il s'efforçait de conclure un accord difficile avec les nouveaux propriétaires arabes de Megatel, évoquant l'accord en question d'un air naturel, comme si elle était déjà au courant. Et elle avait répondu par de vagues paroles encourageantes. Mais il n'avait jamais engagé la moindre discussion avec Megatel. Le lendemain matin, il se réveilla tout aussi fatigué, envahi d'une grande tristesse. Kossi était déjà levée et avait pris son bain. Elle était assise devant sa coiffeuse encombrée de crème et de lotion si bien rangées qu'il avait parfois envie de saisir la table et de la renverser pour voir ce qu'il adviendrait de tous ces flacons. « Ça fait longtemps que tu ne m'as pas préparé d'eux, le Z ?» dit-elle en s'approchant pour l'embrasser quand elle vit qu'il était réveillé. Il lui prépara donc des œufs et joua avec Bucci dans le salon du rez-de-chaussée. Lorsque Bucci se fut endormi, il lut les journaux, le cœur toujours serré. Ifemelu ne répondait pas à ses appels. Il monta dans la chambre. Kossi rangeait une penderie. Des chaussures jonchaient le sol, les talons hauts émergeant de la pile. Il se tint près de la porte et dit doucement « Je ne suis pas heureux, Kossi. J'aime quelqu'un d'autre. Je veux divorcer. Je ferai en sorte que toi et Bucci ne manquiez de rien. »
Quoi ?
Elle se détourna du miroir pour lui jeter un regard vide d'expression. Je ne suis pas heureux. Ce n'était pas ainsi qu'il avait prévu de le dire, mais il n'avait même pas réfléchi à ce qu'il allait dire. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Je ferai en sorte que... Elle leva la main, sa paume ouverte tournée vers lui pour l'arrêter. N'en dis pas plus, disait sa main. N'en dis pas plus. Qu'elle refuse d'en savoir plus le contraria. Sa paume était pâle, presque diaphane. Il voyait le réseau bleuâtre de ses veines. Elle laissa retomber sa main. Puis lentement, elle tomba à genoux. Elle n'avait aucun mal à s'agenouiller, car c'est un geste qu'elle faisait souvent quand elle priait, dans la salle de télévision à l'étage, avec la femme de ménage et la nounou, ou quiconque se trouvait à la maison avec eux.
Bucci, chut !
Disait-elle au milieu de sa prière, pendant que Bucci poursuivait son babillage. Mais à la fin, Bucci lançait toujours de sa petite voix fluette
« Amen !»
Quand Bucci disait « Amen » avec cette allégresse, cet entrain, Obinze craignait qu'elle ne devienne une femme qui étoufferait d'un « Amen » les questions qu'elle voudrait poser au monde. Et maintenant, Kossi tombait à genoux devant lui et il refusait de comprendre le sens de son geste.
« Obinze, nous sommes une famille !» dit Kossi. « Nous avons une enfant !» Elle a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nous devons préserver ensemble cette famille.
Elle était à genoux et le suppliait de ne pas partir, et il aurait tellement préféré qu'elle soit furieuse.
Kossi, j'aime une autre femme.
Je déteste te faire souffrir ainsi et...
Il ne s'agit pas d'une autre femme, Obinze,
dit Kossi en se relevant, d'une voix soudain coupante, le regard durci.
Il s'agit de préserver cette famille. Tu as juré devant Dieu. J'ai juré devant Dieu. Je suis une bonne épouse. Nous sommes un vrai couple. Penses-tu pouvoir détruire cette famille parce que ton ami d'autrefois est revenu dans cette ville? Sais-tu ce que signifie être un père responsable? Tu es responsable vis-à-vis de cet enfant qui est en bas. Ce que tu fais aujourd'hui peut ruiner sa vie et la dévaster jusqu'au jour de sa mort. Et tout cela parce que ton ex est revenu d'Amérique? Parce que tu fais l'amour dans des positions acrobatiques comme au temps de l'université ?
Obinze battit en retraite. Ainsi, elle savait. Il sortit, alla dans son bureau et ferma la porte à clé. Il en voulait à Kossi, parce qu'elle savait depuis le début et avait faim de ne pas savoir. Il lui en voulait de l'avoir humiliée, de cette boue qui lui emplissait l'estomac. Il avait gardé un secret qui n'était même pas un secret. Un sentiment de culpabilité l'accabla. non seulement de vouloir la quitter, mais aussi de l'avoir épousée. Il ne pouvait pas l'avoir épousée, sachant très bien que c'était une erreur, et maintenant, avec un enfant, vouloir la quitter. Elle était décidée à rester mariée et c'était le minimum qu'il lui devait, rester mariée. Une vague de panique le traversa à la pensée de rester mariée. Sans Ifemelu, l'avenir lui paraissait d'un ennui infini, sans joie. Puis il se dit qu'il était stupide, mélodramatique. Il devait penser à sa fille. Pourtant, faisant pivoter son fauteuil pour prendre un livre sur un rayonnage, il sut qu'il avait déjà pris la fuite. Parce qu'il s'était retiré dans son bureau, y avait dormi sur le divan, parce qu'il ne s'était rien dit, il pensa que Cossy n'irait pas le lendemain au baptême de l'enfant de son ami Ahmed. Mais le matin, Cossy déposa sur leur lit sa longue jupe de dentelle bleue, son caftan bleu sénégalais et, entre les deux, la robe de velours bleu à volant de Bucci. Elle ne l'avait jamais fait auparavant, étaler des vêtements de couleur assortis pour tous les trois. En bas, il vit qu'elle avait préparé des pancakes, épais comme il les aimait, servis sur la table du petit déjeuner. Bucci avait renversé un peu d'ovaltine sur son set de table.
« Ezekia m'a appelé, » dit Cossy d'un air songeur, parlant de son cousin à Oka, qui appelait seulement quand il voulait de l'argent. Il a envoyé un texto disant qu'il n'arrivait pas à te joindre. J'ignore pourquoi il feint d'ignorer que tu ne prends jamais ses appels.
C'était étrange de l'entendre accuser Ezekia de feindre, alors qu'elle en faisait autant. Elle déposait des cubes d'ananas frais dans son assiette, comme s'il ne s'était rien passé la veille.
Mais tu devrais faire quelque chose pour lui, même de peu d'importance, sinon il ne te laissera pas tranquille.
Faire quelque chose pour lui signifiait lui donner de l'argent, et Obinze eut soudain horreur de cette habitude commune aux Igbo d'utiliser des euphémismes chaque fois qu'il parlait d'argent, des allusions ambiguës, des gesticulations, au lieu de s'exprimer franchement. C'était exaspérant. Un manque de courage, surtout chez des gens qui pouvaient se montrer cruellement directs. « Sale, dégonflé », avait dit Ifemelu. Il y avait quelque chose de lâche dans sa manière même de lui envoyer des textos et de l'appeler, sachant qu'elle ne répondrait pas. Il aurait pu aller chez elle et frapper à sa porte, ne serait-ce que pour l'entendre lui dire de partir de vive voix. Et il y avait quelque chose de lâche dans le fait de ne pas redire à Cossy qu'il voulait divorcer, de s'appuyer sur le refus de Cossy. Cossy prit un morceau d'ananas dans son assiette et le mangea. Elle était résolue, inébranlable, calme.
« Tiens la main de papa !»
dit-elle à Bucci tandis qu'il pénétrait cet après-midi-là dans la propriété d'Ahmed où se déroulait la fête. Elle voulait absolument retrouver la normalité. Elle voulait faire exister leur mariage. Elle apportait un cadeau enveloppé de papier d'argent pour le bébé d'Ahmed. Dans la voiture, elle lui avait dit de quoi il s'agissait, mais il l'avait déjà oublié. Des tentes et des tables de buffet étaient disséminées dans le vaste domaine, verdoyant et bien dessiné, avec la promesse d'une piscine derrière la maison. Un orchestre jouait. Deux clowns se promenaient çà et là. Les enfants dansaient et poussaient des cris.
« Ils ont engagé le même orchestre que celui que nous avions pour la fête de Bucci »,
murmura Cossy. Elle avait voulu une grande réception et il avait traversé cette journée en flottant, comme dans une bulle. Quand le maître de cérémonie avait annoncé le nouveau père, il avait été étrangement surpris en se rendant compte qu'il s'agissait de lui, qu'il était réellement le nouveau père. Un père ? La femme d'Ahmed, Sike, le serrait dans ses bras, pinçait les joues de Bucci. Les gens tournaient autour d'eux, les rires emplissaient l'air. Ils admiraient le nouveau-né, endormi entre les bras de sa grand-mère. Et Obinze songea soudain qu'ils avaient assisté à des mariages quelques années auparavant, que c'était des baptêmes aujourd'hui et que suivraient bientôt des enterrements. Ils mouraient. Ils mouraient tous après avoir péniblement traversé des vies qui ne les auraient rendus ni heureux ni malheureux. Il tenta d'écarter cette ombre morose qui l'enveloppait. Cossy emmena Bucci jusqu'au groupe de mères et d'enfants près de la porte du salon. Les enfants formaient un cercle, au centre duquel se tenait un clown aux lèvres rouges. Obinze regarda sa fille. Sa démarche maladroite, le ruban bleu, piquetée de fleurs de soie, qui entourait son épaisse chevelure, son air implorant quand elle regardait Cossy, avec une expression qui lui rappelait sa propre mère. Il ne supportait pas la pensée que Bucci, en grandissant, puisse lui en vouloir, privé de ce qu'il aurait dû être pour elle. Mais ce n'était pas qu'il quitte ou non Cossy qui importait. C'était le temps qu'il pourrait passer avec Bucci. Il vivrait à Lagos, après tout, et il ferait en sorte de la voir autant qu'il le pourrait. Une quantité de gens grandissaient sans la présence d'un père. Comme lui, bien qu'il ait toujours eu le souvenir consolateur de son père, idéalisé, mêlé à de joyeuses images d'enfance. Depuis le retour d'Ifemelu, il avait cherché à connaître des histoires d'hommes qui avaient quitté leur famille, s'obstinant à leur trouver une conclusion heureuse, des enfants plus épanouis avec des parents séparés qu'avec un couple désuni. Mais la plupart de ces histoires étaient pleines d'enfants amers, qui en voulaient à leurs parents d'avoir divorcé, qui auraient préféré que, même malheureux, ils restent mariés. Un jour, dans son club, il s'était senti rasséréné en entendant un jeune homme parler à des amis du divorce de ses parents, racontant comment il avait été soulagé tant il était accablé de les voir malheureux ensemble. Leur mariage étouffait tout ce qu'il y avait de bon dans notre vie, et le pire, c'est qu'ils ne se disputaient même pas.
Parfait !
S'était exclamé Obinze à l'autre extrémité du bar, s'attirant les regards surpris de tout le monde. Il regardait Cossy et Bucci parler au clown aux lèvres rouges, quand Okudiba arriva.
Le Z !
Ils s'étreignirent, se tapèrent dans le dos.
Comment c'était la Chine ?
Demanda Obinze.
C'est chinois ?
Hein ?
Des malins. Tu sais que les crétins qui s'occupaient de mon projet auparavant avaient signé des accords stupides avec les Chinois ? Nous voulions en modifier certains. Mais voilà ces Chinois, 50 au moins, qui arrivent à une réunion avec un paquet de documents et ils te disent seulement « signez ici, signez ici ». Ils t'épuisent à force de négociations jusqu'à ce qu'ils obtiennent ton argent et même ton portefeuille.
Okudiba rit.
Viens, montons à l'étage. J'ai entendu dire qu'Ahmed avait des bouteilles de Dom Pérignon là-haut.
En haut, dans ce qui semblait être une salle à manger, sous un lustre compliqué semblable à un gâteau de mariage en cristal, brillant de mille feux, de lourds rideaux bordeaux étaient tirés, masquant la lumière du jour. Plusieurs convives étaient assis autour d'une grande table en chêne, chargée de vin et d'alcool, de plats de riz, de viande et de salade. Ahmed entrait et sortait, donnait des ordres à la serveuse, écoutant les conversations, ajoutant quelques mots.
Les riches ne s'intéressent pas vraiment à la tribu. Mais plus vous vous rapprochez du bas de l'échelle, plus la tribu compte,
disait Ahmed au moment où Obinze et Okudiba entrèrent. Obinze appréciait le caractère sardonique d'Ahmed. Ahmed avait loué des emplacements stratégiques sur les toits de Lagos quand les compagnies de téléphone commençaient à s'y implanter. Et maintenant, il leur soulouait les toits pour leurs antennes relais, gagnant ainsi, comme il le disait ironiquement, le seul argent facile et propre du pays. Obinze serra la main des hommes qu'il connaissait pour la plupart, demanda à la serveuse, une jeune femme qui avait placé un verre à vin devant lui, s'il pouvait avoir un Coca-Cola à la place. L'alcool l'enliserait encore plus profondément dans ses problèmes. Il écouta les conversations autour de lui, les plaisanteries, les roseries, les histoires rabâchées. Puis, comme prévu, ils se mirent à critiquer le gouvernement. L'argent volé, les contrats non respectés, les infrastructures dégradées, laissées à l'abandon.
Écoutez, il est très difficile d'être un fonctionnaire intègre dans ce pays. Tout est organisé pour le vol. Et le pire, c'est que les gens veulent que vous voliez. Vos parents veulent que vous voliez. Vos amis veulent que vous voliez.
Dit Olu. Il était mince et voûté, avec la vanité facile qui venait d'une fortune héritée de son nom connu. On lui avait jadis offert un poste ministériel, et la légende courait en ville qu'il avait répondu
« Mais je ne peux pas vivre à Abuja, il n'y a pas d'eau. Je ne peux pas vivre sans mes bateaux. »
Olu venait de divorcer de sa femme, Morininke, une amie de Cossy à l'époque où elle était étudiante. Il avait harcelé Morininke, qui avait quelques kilos en trop, pour qu'elle maigrisse, pour qu'elle se maintienne en forme, afin qu'il continue à s'intéresser à elle. Durant le divorce,
elle avait découvert sur l'ordinateur familial un dossier secret de photos pornographiques, représentant toutes des femmes obèses, leurs bras et leurs ventres débordant de graisse, et elle en avait conclu, avec Cossy, qu'Olou avait un problème psychologique. Pourquoi tout doit-il être un problème psychologique? Ce type est simplement fétichiste? Avait dit Obinze à Cossy. Maintenant, il lui arrivait de regarder Olou avec une curiosité amusée. On ne savait jamais avec les gens.
Le problème n'est pas que les fonctionnaires volent. Le problème, c'est qu'ils volent trop,
disait Okudiba.
Regardez ces gouverneurs. Ils quittent leur état et viennent à Lagos pour rafler tous les terrains. Et ils resteront sans y toucher jusqu'à ce qu'ils quittent leurs fonctions. C'est pour cette raison que personne ne peut acheter de terrain de nos jours. C'est vrai. Les spéculateurs rendent les prix inabordables. Et les spéculateurs sont des types qui font partie du gouvernement. Nous avons de sérieux problèmes dans ce pays,
dit Ahmed.
Mais pas seulement au Nigeria. Il y a des gens qui spéculent sur les terrains partout dans le monde,
dit Aizé. Aizé était l'homme le plus riche de la pièce, propriétaire de puits de pétrole. Et comme la plupart des Nigérians riches, il n'avait pas d'angoisse. Un homme heureux, indifférent à ce qui l'entourait. Il était collectionneur d'art et s'en vantait à tout bout de champ. Il rappelait à Obinze l'ami de sa mère, Tante Chinelo, une professeure de littérature qui, au retour d'un court séjour à Harvard, avait déclaré lors d'un dîner « Notre problème dans ce pays est que nous avons une bourgeoisie arriérée. Ces gens-là ont de l'argent, mais ils ont besoin d'acquérir une certaine sophistication. Ils doivent apprendre à s'y connaître en vain. » Et sa mère avait répliqué calmement « Il y a beaucoup de façons différentes d'être pauvre dans le monde, mais il semble n'y en avoir qu'une seule d'être riche. » Plus tard, après le départ de Tante Chinelo, sa mère avait dit « C'est complètement stupide. Quel besoin de devenir connaisseur en vain ?» Obinze s'était étonné de cette réflexion. « Ils doivent apprendre à s'y connaître en vain. » Mais d'une certaine manière, il avait été déçu parce qu'il avait toujours aimé Tante Chinelo. Il imagina que quelqu'un avait dit à Aizé quelque chose de similaire. « Il faut que tu deviennes collectionneur d'art. Il faut que tu t'y connaisses en art. » Et qu'il s'était intéressé à l'art avec le zèle d'un découvreur. Chaque fois qu'Obinze voyait Aizé et l'entendait s'exprimer à parler de sa collection, il était tenté de lui dire de la liquider et de se libérer.
« Les prix des terrains ne sont pas un problème pour les gens comme toi, Aizé !»
dit Okudiba. Aizé se mit à rire, un rire d'assentiment complaisant. Il avait ôté son blazer rouge et l'avait suspendu au dos de sa chaise. Il était toujours à la recherche de l'élégance, à la limite du dandysme. Il portait des couleurs primaires et ses boucles de ceinture étaient massives et proéminentes, comme des crocs. À l'autre bout de la table, Mekous disait
« Savez-vous que mon chauffeur raconte qu'il a passé le WAEC ? Mais l'autre jour, je lui demande de m'écrire une liste et il ne sait absolument pas écrire. Incapable d'épeler garçon ou chat. Formidable ! »
À propos de chauffeur, un ami m'a raconté que le sien est un homosexuel économique. Il suit des hommes qui lui donnent de l'argent. Et pendant ce temps, il a une femme et des enfants à la maison,
dit Ahmed.
Homosexuel économique,
répéta quelqu'un au milieu d'un éclat de rire général. Charlie Bombay semblait particulièrement amusé. Il avait un visage rude, barré de cicatrices, le genre d'individu qu'on imaginait au milieu d'un groupe d'hommes bruyants, mangeant des viandes épicées, buvant de la bière et regardant les matchs d'Arsenal.
Le Z, tu es bien silencieux aujourd'hui, dit Okudiba,
qui en était à son cinquième verre de champagne.
Haru a dit quoi?
Obinze haussa les épaules.
Je vais bien, simplement fatigué. Mais le Z est toujours calme,
dit Mekous.
C'est un gentleman. Est-ce parce qu'il est venu nous rejoindre ici? C'est quelqu'un qui lit de la poésie et Shakespeare. Un vrai Britannique.
Mekous rit bruyamment de sa propre plaisanterie. À l'université, c'était un as en électronique. Il réparait les lecteurs de CD considérés irréparables et il avait eu le premier ordinateur portable qu'ait jamais vu Obinze. Son diplôme en poche, il était parti en Amérique, dont il était revenu peu après très discrètement et très riche, ce que beaucoup attribuaient à une escroquerie massive à la carte bancaire.
Sa maison était bourrée de caméras de surveillance. Ses gardes du corps portaient des armes automatiques. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on mentionnait l'Amérique dans une conversation, il disait
« Vous savez que je ne pourrai jamais entrer en Amérique après les transactions que j'y ai faites !»
Comme pour retirer le venin des rumeurs qui le poursuivaient.
« Oui, le Z est un gentleman sérieux, » dit Ahmed. « Figurez-vous que Sike m'a demandé l'autre jour si je connaissais quelqu'un comme lui que je pourrais présenter à sa sœur. J'ai dit « Tu ne veux pas de quelqu'un dans mon genre pour épouser ta sœur ? Tu veux quelqu'un comme le Z ? Qu'est-ce que tu imagines ?»«
Non, le Z n'est pas silencieux parce qu'il est un gentleman, » dit Charlie Bombay de son ton traînant, la langue pâteuse après avoir sifflé la moitié d'une bouteille de cognac qu'il avait placée stratégiquement devant lui.
« C'est parce qu'il veut que personne ne sache combien d'argent il a. »
Il rit. Obinze avait toujours supposé que Charlie Bombay battait sa femme. Il n'avait aucune raison de le penser. Il ne savait rien de la vie personnelle de Charlie Bombay. Il n'avait jamais vu sa femme. Pourtant, chaque fois qu'il le voyait, il l'imaginait battant sa femme avec une épaisse ceinture de cuir. Il semblait d'un naturel violent, ce gros balèze vantard, ce parrain qui avait payé pour la campagne du gouverneur de son état et qui maintenant détenait le monopole de presque toutes les activités qui y étaient pratiquées.
« Ne t'occupe pas du Z. Il croit que nous ignorons qu'il possède la moitié des terrains de l'Eki. »
dit Aizé. Obinze émit le petit rire attendu. Il sortit son téléphone et envoya en vitesse un texto à Ifemelu. « S'il te plaît, parle-moi. »
« Nous ne nous connaissons pas. » « Je m'appelle Dapo. »
dit l'homme qui était assis de l'autre côté d'Okwudiba, tendant la main à travers la table pour serrer avec chaleur celle d'Obinze, comme s'il venait juste de le voir. Obinze répondit avec un enthousiasme mitigé. Charlie Bombay avait mentionné sa richesse et il devenait soudain intéressant aux yeux de Dapo.
« Vous êtes aussi dans le pétrole ?»«
Non, » répondit Obinze froidement. Il avait entendu un peu plus tôt des bribes de la conversation de Dapo, qui parlait de son job de consultant dans le pétrole, de ses enfants à Londres. Dapo faisait probablement partie de ceux qui installaient leur famille en Angleterre et revenaient ensuite au Nigeria pour y faire fortune.
« Je disais justement que les Nigérians qui se plaignent des sociétés pétrolières ne comprennent pas que notre économie s'effondrerait sans elles, »
dit Dapo.
Vous êtes complètement à côté de la plaque si vous pensez que les compagnies pétrolières nous font une faveur,
dit Obinze. Okwudiba lui lança un regard stupéfait. La sécheresse de son ton était inhabituelle.
Le gouvernement nigérian finance principalement l'industrie pétrolière par des appels de fonds auprès de ses actionnaires. Et de toute manière, les grandes compagnies prévoient de se retirer des opérations terrestres. Elles veulent les abandonner aux Chinois et se concentrer sur l'offshore. C'est comme une économie parallèle. Elles gardent l'offshore, n'investissent que dans des équipements high-tech, extraient le pétrole à des milliers de mètres de profondeur. Pas de personnel local. Les équipes viennent par avion de Houston et d'Écosse. Donc non, elles ne nous font pas de faveur.
Oui, approuva Mekous. Ce sont tous des canailles, tous ces plombiers sous-marins, ces plongeurs en eau profonde, ces gens qui savent comment entretenir et réparer les robots sous l'eau. Tous la même racaille. On les voit dans le salon d'attente de British Airways. Ils ont passé un mois sur la plateforme sans alcool et le temps d'arriver à l'aéroport, ils sont fins sous et ils se comportent comme des porcs dans l'avion. Ma cousine était hôtesse de l'air. Elle dit que c'en était arrivé au point où les compagnies aériennes devaient faire signer des accords à ces types concernant la boisson, sinon on ne les acceptait pas à bord.
Mais le Z ne voyage pas avec British Airways. Il n'est pas au courant,
dit Ahmed. Il s'était moqué d'Obinze qui refusait d'utiliser British Airways, qui était pourtant la compagnie qu'utilisaient les gens importants.
Quand j'étais un client ordinaire en classe économique, British Airways me traitait comme une vilaine diarrhée,
dit Obinze. Tout le monde rit. Obinze espérait que son téléphone allait vibrer et il rongeait son frein. Il se leva.
Où sont les toilettes ?
C'est juste en bas,
dit Mekous. Okwudiba sortit avec lui.
Je rentre, dit Obinze. Il faut que je trouve Kossi et Bucci.
Le Z,
Oh, Ginny, qu'est-ce que tu as? Simplement de la fatigue?
Il se tenait près de l'escalier courbe, bordé d'une rambarde ornementée.
Tu sais qui fait Melou est revenu?
Dit Obinze. Le simple fait de prononcer son nom lui réchauffa le cœur.
Je sais.
Okudiba laissait entendre qu'il en savait davantage.
C'est sérieux. Je veux l'épouser. Serais-tu devenu musulman sans nous le dire?
Oku, je ne plaisante pas. Je n'aurais jamais dû me marier avec Ossi. Je le savais, même alors. Okudiba inspira à fond, puis souffla comme pour chasser les vapeurs de l'alcool.
Écoute le Z, beaucoup d'entre nous n'ont pas épousé la femme qu'ils aimaient vraiment. Nous avons épousé la femme qui se trouvait là quand nous étions prêts à nous marier. Alors oublie cette histoire. Tu peux continuer à la voir, mais tu n'as pas besoin d'adopter ce comportement de blanc. Si ta femme avait un enfant de quelqu'un d'autre, ou si tu la battais, ça serait une raison de divorcer. Mais te lever et dire que tu n'as aucun problème avec ta femme, mais que tu la quittes pour une autre. Ah bah ! Nous ne nous conduisons pas comme cela, je t'en prie.
Kossi et Bucci étaient en bas de l'escalier. Bucci pleurait.
Elle est tombée, dit Kossi. Elle veut que son papa la porte.
Obinze descendit l'escalier.
Butch, Butch, que s'est-il passé?
Elle lui tendait déjà les bras.